Découvert, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, et bien sûr, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on se rappellera la naissance de Theodor Herzl. C'était le 2 mai 1860. Theodor Herzl est né à Budapest, en Hongrie. Il est un écrivain, journaliste austro-hongrois, ainsi que, bien sûr, le fondateur du mouvement sioniste et l'un des premiers penseurs du sionisme politique. Je vous parlerai également du candidat israélien en concours Reine Elisabeth à Bruxelles, Elam Keshet, c'est son nom. Bonne nouvelle, pour la première fois, l'université hébraïque de Jérusalem nomme une femme arabe au poste de vice-présidente. Il s'agit du professeur Mona Khoury Kassabri. Je vous lirai un texte très émouvant qui est paru dans la revue des écrivains israéliens de langue française sous le titre Auschwitz et moi, je n'étais jamais allée à Auschwitz. On parlera littérature avec le roman d'Emouna Elon, Une maison sur l'eau, un premier roman. Le projet de musée mémorial du terrorisme à Paris commence, heureusement, à prendre forme. Je vous rappellerai que c'était le 5 mars 1904 qu'Alfred Dreyfus a obtenu la réouverture de son dossier devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et sachez qu'en France, le CRIF, le Conseil de représentation des Juifs de France, félicite Gershon Douwa, qui est le président de la Fédération des Juifs Noirs de France. Mais avant toute chose, bien sûr, on passe un petit morceau de musique.
זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם הלילות בכנען תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד נוסע הערפל בעמק בין הזריחה ועוד נשמע אין בלבבות אוהב לו סמר ישן שעזבנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בבנן תרם השמש עולה Avi Toledano avec Hora.
Cette année, le jeune pianiste israélien Elam Keshet fait partie des 64 candidats sélectionnés pour le concours Anne-Elisabeth. Il s'agit de 53 hommes et 11 femmes, représentant 19 nationalités différentes. Né en Israël, Elam Keshet a commencé ses études musicales à l'âge de 9 ans. Il a participé à de prestigieux festivals et événements musicaux partout dans le monde et se produit régulièrement en Israël, bien sûr, en Europe, en Suisse, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Malgré le fait que les salles de concert restent fermées au public, vous ne manquerez pas une seule note du concours de piano 2021. Vous pourrez en effet suivre en direct toutes les épreuves et les deux concerts des lauréats sur Internet, à la radio ou encore à la télévision. Direction Israël, où le comité directeur de l'Université hébraïque de Jérusalem a annoncé que le professeur Mona Khoury Kassabri a été élu vice-président de la stratégie de la diversité, donc de l'université. C'est la première fois dans l'histoire de l'université qu'un membre de la communauté arabe est nommé à un poste supérieur de vice-président. C'est également la première fois qu'une université israélienne crée un poste supérieur pour renforcer la diversité et l'inclusion. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Khoury Kassabri sera donc chargée d'élargir les rangs du personnel académique et des étudiants de l'université en y intégrant des membres de communautés sous-représentées dans le monde universitaire, notamment des juifs ultra-orthodoxes, des arabes, des éthiopiens et des personnes handicapées. En outre, Mme Khoury Kassabri sera chargée de mettre en œuvre les priorités stratégiques de l'université, parmi lesquelles l'augmentation de l'impact social, économique et environnemental de l'université, le renforcement des efforts interdisciplinaires entre les 6 campus de l'université et l'adaptation des méthodes d'enseignement à la période post-corona. Je suis profondément honorée d'être la première arabe à occuper le poste de vice-présidente de l'Université hébraïque de Jérusalem. Je suis persuadée que mon expérience, tant dans les salles de classe que dans les postes de direction de l'université, me servira à promouvoir les objectifs stratégiques et les valeurs d'inclusion de cette grande institution, a donc déclaré le professeur Mona Khoury Kassabri. Cette dernière est actuellement doyenne de l'école Paul Berwald School of Social Work and Social Welfare de l'Université de Hong Kong, poste qu'elle occupera donc jusqu'à la fin de l'année universitaire 2020-2021. Le multiculturalisme et la diversité sont au cœur même de l'université hébraïque, a ajouté le professeur Asher Cohen, président donc de l'université, à l'appui de la nomination de Mona Khoury Kassabri. Pour cette raison, nous avons pris la décision de créer officiellement un poste de haut niveau à l'université qui se concentrera sur la mise en œuvre de ces principes et de la stratégie pour y parvenir. Le professeur Khoury Kassabri est la candidate idéale. Elle défend la diversité sans compromettre l'intégrité académique ou encore le professionnalisme. Fin de citation. Le professeur Khoury Kassabri est titulaire de 3 diplômes de la School of Social Work and Social Welfare de l'Université hébraïque. Elle a effectué un stage postdoctoral à l'Université de Chicago et a été chercheuse à la Faculté de Travail Social de l'Université de Toronto au Canada. En 2014, elle a été nommée conseillère du président de l'Université hébraïque afin d'accroître l'accès des Arabes à l'enseignement supérieur et a occupé des postes clés au sein de divers comités, notamment la tête du comité directeur de l'Université pour l'espoir israélien dans le monde universitaire. En 2018, elle a été nommée doyenne de l'École de travail social et de bien-être social de l'Université. Ses domaines de recherche sont la violence scolaire, la délinquance juvénile et la cyber-intimidation. Le Conseil des gouverneurs de l'Université hébraïque a également décidé de réélire le professeur Asher Cohen, notamment à la lumière des réalisations de l'Université pendant son mandat et de sa gestion réussie de la crise du Covid-19 à l'Université. Depuis qu'il a pris la présidence de l'Université il y a 4 ans, le professeur Cohen a aidé l'Université à atteindre de nouveaux sommets en matière de recherche et d'enseignement et à placer l'institution sur une base financière stable. C'est ce qu'a déclaré Daniel Schlesinger, président du Conseil des gouverneurs de l'Université hébraïque. L'année dernière a été marquée par de profonds défis liés à l'épidémie mondiale de Covid-19. Nous sommes donc particulièrement reconnaissants à M. Cohen pour son leadership exceptionnel tout au long de cette période. Enfin, après avoir obtenu une licence en économie et une maîtrise en psychologie de l'université hébraïque, M. Cohen a effectué ses études doctorales et postdoctorales à l'université de l'Oregon aux États-Unis. Il a été professeur adjoint à l'université de l'Indiana avant de revenir au département de psychologie de l'université hébraïque de Jérusalem en tant que maître de conférences puis chef de département. Ce dernier a entamé son mandat de président de l'université hébraïque en 2017 après avoir occupé le poste de recteur. Parlons littérature à présent avec Une maison sur l'eau, un premier roman d'Emouna Elon, paru en français chez Albin Michel, dans une traduction de Catherine Verskowski, et qui met en fait en scène l'histoire de Yoel Blum, un écrivain israélien de renommée internationale qui se rend à Amsterdam, aux Pays-Bas, afin de rencontrer ses lecteurs, à la demande insistante de son agent. En effet, Yoel Blum s'est toujours refusé à voyager aux Pays-Bas, obéissant à l'injonction de sa mère de ne jamais retourner à Amsterdam, la ville où il est né pendant la guerre et qu'il a fui avec sa sœur aînée et sa mère, échappant de justesse à la déportation. À contre-cœur, donc, il enfreint l'interdit en limitant au plus près la durée de son séjour. Sa femme l'accompagne et les rares moments de tourisme que le couple s'octroie les mènent à visiter le musée historique juif d'Amsterdam. Des images d'archives défilent sur un écran, une scène de mariage retient l'attention de l'écrivain. On y voit une famille composée d'un jeune homme et d'une jeune femme, chacun tenant un petit enfant. Le père porte sa fille, la mère un garçonnet. et Yoel réalise que la fillette est sa propre sœur. La femme est incontestablement sa mère, l'homme est certainement son père dont il n'a aucun souvenir. Par contre, il ne se reconnaît pas du tout dans le petit garçon que sa mère tient dans les bras. Yoel Blum est à ce point troublé, et on peut le comprendre, qu'à son retour en Israël, il se confronte à sa sœur et l'oblige à lui révéler la vérité sur le passé. De cet aveu, le lecteur est tenu écarté. C'est là toute la force du roman d'Emouna Elon qui nous entraîne à la suite de l'écrivain dans la recherche de ses origines, recherche qu'il a attendue à son insu toute sa vie. Elle renvoie le protagoniste à Amsterdam. Yoel s'installe dans un hôtel miteux à deux pas de l'hôpital juif où il est né et commence à accumuler des notes dans des petits cahiers pour un roman par le biais duquel il va tenter de donner du sens au passé. Cette histoire dans l'histoire retrace celle de la jeune Sonia Blum, âgée d'une vingtaine d'années, et de ses deux enfants, Nettie et Léo, pris au piège de l'inexorable étau de persécution mis en place dès 1941 contre toute la population juive d'Amsterdam. Pour écrire ce roman, Emouna Elon s'est imprégnée de la ville et de son histoire. Elle a séjourné dans ce même hôtel, arpenté les rues habitées alors par les Juifs pour ressentir au plus près les conditions de survie de la communauté. Une maison sur l'eau est un roman très visuel qui se déroule sur un rythme lent, suivant le fil du temps que la mémoire du protagoniste remonte. L'auteur rend un hommage poignant aux Juifs d'Amsterdam pendant les heures sombres de l'histoire, sans concession pour les dirigeants du Judenrat de la ville et en hommage à la résistance qui a réussi à trouver des caches pour des enfants juifs. Habilement, le présent et le passé se côtoient dans le récit, nous laissant percevoir la douleur constante qui filtre entre la beauté paisible de la ville contemporaine et la remontée des horreurs de la guerre. Apparaît la blessure profonde du narrateur Yoel Blum, habité au plus intime par un éternel sentiment d'étrangeté, de non-appartenance, qui définit sa relation aux êtres aimés qui l'entourent, jusqu'à la conclusion bouleversante du roman. Ce chaos originel est à la source de la création littéraire de Yoel Blum, de toute création littéraire ou autre d'ailleurs, nous dit en filigrane Emouna Elon. Avec une maison sur l'eau, elle signe un roman très fort sur l'identité, les origines, le voyage dans le temps et la mémoire. Issue d'une famille très orthodoxe, veuve du rabbin Benjamin Elon, ancien député de la Knesset, mère de 6 enfants, dont l'un d'entre eux, Ori Elon, est le co-scénariste de la célébrissime série sur Netflix Shtissel. Emouna Elon est une combattante féministe au sein de l'orthodoxie et bien sûr un formidable écrivain. Et je remercie au passage Agnès Ben-Simon de l'ambassade d'Israël de nous avoir parlé donc de ce roman.
שוב בדרך לאיזה כפר מי משנינו יתחיל דיבור אני זורק לך משפט מוכר קחי סיגריה תתני גפור אני מרגיש את הנשימה שלך ולוקח את הריאות ואומר לך הים ירעד והלב ישרוד שוב בדרך לאן שהוא את שואלת יהיה זמר אני אומר לך הכל תלוי את קוראת לי עוד מיתר את לוחשת מצחי שלי ופותחת חלון לעיר ואומרת תקשיב צלילי מחפשים שם שיר את היית בחורה שלי את היית הימים מהם את היית החצי שני ועכשיו אחיה שלם החיים הם חידה גדולה אני זוכר איך אמרת לי לא הורגים את הבחורה שעוד מיזה שוב בדרך על הכבישים מאשלים, מאשלים תמיד
את מספרת
את מספרת על אנשים
את מנבט
מנבט לי את העתיד עוד יגיעו לירחים עוד יזיעו עד אלוהים עוד יריעו לאחרות ולאחרים. את היית בחורה שלי, את היית הימים ההם, את היית החצי שלי, ועכשיו אחיה שלם. החיים על חידה גדולה, אני זוכר חמר פליאז, לא הורגים את הבחורה שעוד מיזה. הבאת לי המזלות כשאמרו פמיניסטית, איך צחקתי מזה מאוד, כשלקחת מיקרופון ביד וכששעת שם בעוצמתך, למדתי שם בצד מתפעל ממך, למדתי שם בצד מתפעל ממך, נעמדתי שם בצד, מתפעל ממך. משנינו יתחיל דיבור,
שלמה ארצי avec Abachoura Shelly. De l'histoire à présent, le 5 mars 1904, Alfred Dreyfus obtient la réouverture de son dossier devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus est gracié. Il avait, je vous le rappelle, été condamné quelques jours auparavant à 10 ans de réclusion lors de la révision de son procès. Il sera donc réhabilité en 1906. Mais en fait, que s'est-il passé? Comment a-t-il été réhabilité? Le 5 mars 1904, à la suite de la découverte d'autres faux introduits dans le dossier secret constitué contre le capitaine Alfred Dreyfus à Rennes, la Cour de cassation déclare recevable la nouvelle demande en révision et ordonne donc un supplément d'enquête. Durant 5 mois, la Cour recueille tous les témoignages, les généraux Gonse, Mercier, Boisdeffre, Billot et Guignet, ainsi que les témoignages de Charles Mercier du Paty de Clam, de Jean-Casimir Perrier, président de la République de 1894 à 1895, de Gabriel Anoteau, ministre des Affaires étrangères. Au printemps de l'année 1905, le procureur général Baudouin dépose donc son réquisitoire et la Cour de cassation peut casser le jugement de Rennes et renvoie Dreyfus devant un troisième conseil de guerre. L'avocat de Dreyfus, maître Mornard, fait savoir à son client que la Cour de cassation a le pouvoir légal de casser le jugement sans renvoi, même si Alfred Dreyfus ne craint pas de comparaître devant un troisième conseil de guerre. Il est préférable que la cassation sans renvoi s'impose. Mornard explique donc à Dreyfus qu'il plaiderait dans ce sens. Quant au procureur général Baudouin, il demande l'annulation du jugement sans renvoi pour mettre fin à une erreur judiciaire. Les débats solennels de la Cour de cassation ont lieu en juin 1906 pendant le gouvernement sarien. Le jour de l'arrêt, les conseillers proclament l'innocence de Dreyfus. Ils ne se sont divisés que sur la question du renvoi. Alors, par 31 voix contre 18, ils se prononcent sur la cassation du jugement de Rennes sans aucun autre renvoi. et au Sénat, la réintégration de Dreyfus est votée par 182 voix contre 30 et celle de Picard par 184 voix contre... et 26 contre 4. Le 22 juillet 1906, le commandant Alfred Dreyfus reçoit la Légion d'honneur à l'école militaire. Dans une cour voisine, 12 ans auparavant, lors de sa dégradation le 5 janvier 1895, la foule haineuse hurlait « Mort aux Juifs ». Alors, autre rappel... Né le 2 mai 1860 à Budapest, en Hongrie, Théodore Herzl est un écrivain, journaliste austro-hongrois, ainsi que le fondateur du mouvement sioniste. Il est l'un des premiers penseurs du sionisme politique. Théodore Herzl commence par suivre des études de droit, avant d'entamer une carrière d'écrivain de journaliste, envoyé à Paris en tant que correspondant pour le Neue Freie Presse, le journal libéral le plus influent de Vienne. Celui-ci fut notamment confronté au problème de l'antisémitisme lors justement de l'affaire Dreyfus. Observant les foules hurlant mort aux Juifs, Théodore Herzl en déduisit qu'il n'existait qu'une seule solution aux agressions antisémites, l'immigration en masse des Juifs dans un pays à eux. Herzl arriva à la conclusion que l'antisémitisme était une donnée immuable, bien ancrée dans la société humaine et non résorbée par l'assimilation. Il réfléchit alors longuement à l'idée d'une souveraineté juive et, sans craindre de s'exposer au ridicule auprès des dirigeants juifs, publia en 1896 « Der Judenstaat », l'État juif. Il y soutenait que le problème juif n'était pas d'ordre individuel, mais bien national. Il considérait la question juive comme une question politique internationale devant être traitée sur la scène politique internationale. Théodore Herzl proposa donc un programme concret de collecte de fonds auprès des Juifs du monde par un organisme qui œuvrerait en vue d'atteindre cet objectif. Lorsqu'il fut par la suite constitué, cet organisme prit le nom d'organisation sioniste. Herzl organise alors le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, du 29 au 31 août 1897. Ce rassemblement marque un tournant décisif dans l'histoire du mouvement, qui devient alors officiellement mouvement sioniste politique. Théodore Herzl y propose son programme, qu'il qualifie de plan de réunification nationale juive. Et dans son journal, Herzl écrit « Si je devais résumer le congrès de Bâle en un mot, ce serait celui-ci. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Peut-être dans 5 ans et certainement dans 50 ans, chacun le saura. » Théodore Herzl mourut en 1904 d'une pneumonie et d'une faiblesse cardiaque. En 1949, la dépouille de Théodore Herzl fut amenée en Israël et réinhumée sur le mont qui porte son nom, donc à Jérusalem.
Machatene ste gitraie, lomir zen of faibik machatunim, lomir zen of faibik machatunim, irgime chavek, matorte fashni, sie soll bald nicht tun, verdus punim, irgime chavek, matorte fashni, sie soll bald nicht tun, verdus punim, machatene ste Mein Kind soll dir Frieden nicht erwecken. Mein Kind soll dir Frieden nicht erwecken. Und Tome wird dir sein, ein Mauer auf mein Kind. Wie eine eigene Mama soll dir das verdecken. Und Tome wird dir sein, ein Mauer auf mein Kind. Wie eine eigene Mama soll dir das verdecken. schlecker bei sich schwiege, ist man doch bei euch erschrien.
Spiel Zigeuner, direction à présent la France, où le projet de musée mémorial du terrorisme commence à prendre forme. En effet, cette structure doit ouvrir ses portes en 2027. La partie mémoriale rendra hommage à toutes les victimes françaises depuis 1974, date de l'attentat du drugstore Publicis à Paris. Alors qu'Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement français ont participé en mars à la deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, le projet de musée mémorial du terrorisme annoncé par le président en 2018 commence donc à prendre forme. Une étape importante a d'ailleurs été franchie en février avec la constitution d'un groupement d'intérêt public dont la première réunion s'est tenue le 26 février. L'ouvrage, qui doit ouvrir ses portes donc en 2027, selon l'historien Henri Rousseau, chargé en 2019 par Édouard Philippe d'une mission de préfiguration, se divisera en deux parties distinctes. Une partie mémoriale rendra hommage à toutes les victimes françaises du terrorisme depuis 1974, date donc de l'attentat du drugstore Publicis à Paris, jusqu'à nos jours, qu'elles soient mortes sur le territoire national ou à l'étranger. Ce mémorial mettra aussi en avant la capacité de résilience et de résistance de la société française selon son maître d'œuvre. La deuxième partie du bâtiment abritera un musée. C'est là que se situe l'originalité du projet français, précise une source à l'Élysée. Trois musées consacrés au terrorisme existent de par le monde. Le mémorial du 11 septembre à New York, le mémorial national d'Oklahoma City, théâtre d'un attentat meurtrier de l'ultra-droite en 1995, et le centre du 22 juillet à Oslo, en hommage aux victimes de la tuerie d'Utøya en 2001. Et très prochainement, le Centre mémorial des victimes du terrorisme doit ouvrir au Pays basque espagnol. Le lieu abritant l'institution qui sera choisie d'ici à 2022 n'est pas encore connu, mais il se situera bien à Paris ou dans le Grand Paris. Il ne sera donc pas lié à un attentat en particulier. Le choix d'un lieu peut se révéler un processus complexe et controversé en raison de l'opposition de riverains. Pour Henri Rousseau, qui définit le terrorisme comme une violence de guerre en temps de paix, le musée visera à essayer de comprendre, de penser le phénomène du terrorisme pour le mettre à distance et éviter l'effet de sidération que provoque à chaque fois un attentat. Il y sera aussi bien question des attentats anarchistes, nationalistes, tiers-mondistes, indépendantistes, politiques que des récents attentats djihadistes, précisait récemment l'historien dans un entretien avec la Agence France Presse. La coexistence des exigences d'hommage aux victimes et de pédagogie historique risque de rendre la tâche particulièrement délicate. Les promoteurs du projet français entendent exclure toute forme d'héroïsation des auteurs et commanditeurs d'attentats. Mais jusqu'où aller dans la compréhension sans tomber dans ce que les associations de victimes comprennent parfois comme une justification, voire une forme d'apologie. Comment représenter les auteurs alors que certains responsables politiques ou même médias refusent tout ce qui peut leur faire de la publicité? Alors, pour éviter cet écueil, le musée accordera aussi une place importante aux victimes, aux survivants, aux blessés physiques et psychiques, aux primo-intervenants ainsi qu'aux aidants de première ligne. Outre un conseil scientifique et culturel, le futur musée mémorial est doté d'un observatoire d'orientation présidé par François Molin, l'ancien procureur de la République de Paris au moment de la vague des attentats de 2015-2017. Cette instance, où siège également Françoise Rudetsky, fondatrice de SOS Attentat, et l'urgentiste Patrick Pellou, ancien collaborateur de Charlie Hebdo, regroupe la douzaine d'associations de victimes en France.
Liad she ani pocher ולכן רועד כל גופי הלילה יום יום וליל כל הזמן בנתיב אחד לא מסומן יום יום וליל כל הזמן מגלה מעט מי אני מעט ואולי אולי נלמד לוותר ולתת יותר עד שתיוותר רק אהבתנו יום יום ולב כל הזמן בנתיב אחד לא מסומן יום יום וליל כל הזמן יחד
Très très jolie chanson de Matti Kaspi. Alors maintenant, j'aimerais vraiment, mais alors vraiment, vous lire ce texte de Yair Biran qui a été publié dans la revue des écrivains israéliens de langue française sous le titre « Auschwitz et moi ». Je n'étais jamais allé à Auschwitz. Je suis né en novembre 1940 à l'Hôtel Dieu, en île de la Cité, le berceau historique de Paris. L'occupation allemande était là. Et dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942, j'avais à peine 20 mois, ma mère et moi vivions chez ses parents, rue du Cardinal Lemoine à Paris, non loin de la Seine et de l'ancienne Halle aux Vins. La police parisienne était occupée à arrêter les Juifs requis par les Allemands. C'était donc la fameuse et maudite rafle du Veldiv. Trois policiers français, à ce que l'on m'a dit, sont venus frapper à la porte de l'appartement de mes grands-parents pour les emmener. Mon grand-père croyait qu'on ne prenait que les hommes pour les envoyer travailler à l'Est, et il s'était caché dans un cagibi dans la cour. Mais quand il vit que l'on emmenait sa femme, il ne put supporter de la voir partir sans lui et se joignit donc à elle. Ils furent envoyés à Drancy et 3 semaines plus tard, des wagons à bestiaux les transportaient à Auschwitz où ils furent anéantis. L'écho que me rapporta une tante 20 ans plus tard était que ma mère et moi eûmes la vie sauve parce que l'un des agents aurait dit à ma mère « Prenez votre bébé et disparaissez, ce qu'elle fit et ce pourquoi je suis là. » Je n'étais jamais allée à Auschwitz. Dans les années 1930, mon père vivait à Paris avec 2 de ses frères et plusieurs cousins qui portaient le même nom de famille que lui. Ma mère y avait plusieurs oncles et tantes et quelques cousins, Zitner ou Kloppmann. Mon père et ma mère ne se connaissaient pas encore, quoique arrivés en France la même année. Mon père était un adulte venu en France pour travailler et gagner son pain. Ma mère était une fillette de 10 ans qui avait 2 sœurs plus jeunes qu'elle et son père était un tailleur juif comme tant d'autres. Mes parents ne se connurent qu'en 1939. Ma mère n'avait pas encore 20 ans. Ils se marièrent en février 1940 à la mairie du 3e arrondissement de Paris. Je n'étais jamais allée à Auschwitz. La guerre éclata en septembre 1939, personne n'avait la moindre idée de la tournure qu'elle prendrait. L'invasion de la Pologne par le régime hitlérien fut le détonateur, comme on sait, ce pays fut vaincu en moins de 3 semaines. Mon père n'avait pas été naturalisé français, il était donc resté citoyen polonais. Le gouvernement polonais en exil, réfugié à Londres, lança un appel aux centaines de milliers de Polonais vivant hors du pays natal, en France principalement, pour qu'ils s'engagent dans la guerre contre l'Allemagne. 3 divisions furent levées en France et mon père choisit de s'engager. Dans sa compagnie, il était le seul soldat juif, à l'exception du médecin Frenkel, qui après la guerre resta un de ses meilleurs amis. Et à cette date, en Pologne, vivaient toujours mes grands-parents paternels et de nombreux proches des 2 côtés de ma famille. Par la suite, ils furent presque tous assassinés, à l'exception de 2 cousines qui en réchappèrent, une de chaque côté. Je n'étais jamais allée à Auschwitz. Début 1940, la division de mon père fut envoyée sur le front de l'Est, aux abords d'Épinal. En mai, fin de la drôle de guerre, les Allemands enfoncèrent le front par les Ardennes mal défendues et séparèrent les 2 groupes d'armées alliées, celui du Nord et celui de l'Est. La division où servait mon père se retrouva à proximité de la frontière suisse et officier en tête, elle passa en territoire helvète où elle fut désarmée puis internée dans des casernes suisses. Sur ce, on annonça aux internés qu'ils devaient travailler pour gagner leur pain. Mon père alla d'abord aider les paysans suisses à engranger leur récolte, après quoi il devint bûcheron et abattit des arbres et cantonnier employé à casser des cailloux pour empierrer de nouvelles routes, et j'ai d'ailleurs encore les photos. Après l'armistice de juin 1940 concédé par Pétain, ma mère étant seule, elle alla vivre chez ses parents rue du Cardinal Lemoine. Cela explique sans doute que je suis née à l'Hôtel Dieu, qui n'était pas loin. Et après la rafle du Veldiv, à laquelle elle et moi avions réchappé, comme je l'ai dit, vint la période de la clandestinité. Je fus placée dans un home d'enfants, dans la vallée de Chevreuse, peu de temps sans doute, puis chez des paysans du Loiret. Je me souviens encore des visites à l'église, le dimanche, de l'eau bénite, du service dominical du curé, de la quête chez les fidèles. Surprenant, non ? Dieu était encore dans les parages. La cour de la ferme aussi, le toit de tuiles, les dépendances, où étaient l'étable et ses vaches, puis les combats de juillet 1944, quand les troupes américaines se dirigeaient vers la Loire pour couper la route des divisions allemandes déployées dans le Midi et les empêcher de remonter vers le Nord. Nous avions tous fui la ferme pour nous terrer dans un fossé, peut-être une tranchée de chemin de fer. On entendait le bruit des canons, des chars peut-être, d'autres armes sans doute. Je n'en menais pas large, vous le devinerez facilement. Après, il y eut le retour à la ferme. Les tuiles tombaient dans la cour, les vitres brisées des fenêtres, une certaine désolation. Le pont de pierre qui auparavant enjambait le loin n'était plus là. Plus tard, un pont provisoire en bois fut édifié. La vie reprenait son cours, mais très lentement. Ma mère avait disparu à sa manière. J'ai retrouvé sa fausse carte d'identité avec un faux nom, évidemment. Son métier déclaré était modiste, ce qui n'était pas entièrement faux. Pour autant que j'ai pu le savoir, elle passa de ville en ville, Tours, Agen, Toulouse, Lyon, que sais-je encore. Elle ne m'a jamais parlé de ce qu'elle avait vécu, ni de tout ce qui avait trait à la guerre. Mais je me souviens de l'immédiate après-guerre, à la fin de l'été 44, de vacances avec elle près du bassin d'Arcachon, dans la forêt des Landes, le sol sableux, les chemins de terre, les piles d'obus allemands qui n'avaient pas servi, les enfants plus âgés que moi qui criaient et jouaient à la guerre me faisaient terriblement peur. Et je cherchais les jupes de ma mère pour m'y réfugier, mais elle était un peu indifférente, distante. Était-ce parce que nous étions venus de Paris en traction avant, Citroën conduit par un soldat américain nommé Dansas, juif probablement? Rien n'est sûr. Personne ne m'a jamais vraiment mise au courant. Et en ce temps-là, je n'avais pas encore 4 ans. Je n'étais jamais allée à Auschwitz. L'été 1944, l'écho du débarquement de Normandie parvint en Suisse. Mon père fit alors 2 tentatives d'évasion, la première échue, la seconde en novembre, semble-t-il, réussie. Les Suisses fermèrent les yeux, sans doute sentant approcher la fin du Reich de 1000 ans. Mon père alla sur Paris se présenter à l'hôtel Lutetia, de triste mémoire, où convergeaient tous les prisonniers libérés, les soldats rapatriés et finalement les rescapés des camps de la mort. J'ai 2 ou 3 documents témoignant de son passage. Il fit rechercher son épouse, mes parents se retrouvèrent, mais je ne sais comment, j'étais encore chez mes paysans du Loiret. C'est alors que mon père vint me chercher à la ferme, mais je dois vous le dire, je l'accueillis fort mal. Pour moi, il était un étranger, un monsieur que je n'avais jamais vu, un inconnu. Mais il avait apporté un appareil photo et me prit en photo plusieurs fois. Il avait vraiment un sens artistique, j'avais tout juste 4 ans. Vint le retour à Paris. Mon père avait réintégré son atelier de maroquinerie dans un ancien hôtel particulier rue de la Saintonge. C'était au premier étage, probablement côté jardin au XVIIIe siècle, avec des salons de grande taille aux murs et au plafond couverts de moulures fleuries de haut plafond, des volets en bois, de grandes fenêtres donnant sur la rue. En attendant que mon père récupère son appartement rue de Turenne, occupé sans ménagement par un voisin mal intentionné, on plaça pour moi un lit d'enfant aux couleurs bleues sous une des fenêtres. Pour quelques mois, je me vois encore couché dans ce petit lit comme un angelot, et ensuite l'appartement de la rue de Turenne au 3e étage donnant sur la cour. Je n'étais jamais allée à Auschwitz. La vie me fit passer par l'école maternelle à l'école primaire pour garçons, le lycée Charlemagne, des mouvements de jeunesse juifs sionistes, à moitié approuvés par mon père, lequel était sioniste depuis sa jeunesse en Pologne, tandis que ma mère se désolait. Après 1956, je persévérais dans la voie sioniste. Et en janvier 1959, je prenais le chemin d'Israël, le pays des Juifs, la patrie ancestrale, un paquebot battant pavillon bleu et blanc, dans lequel j'étais montée à bord avec 12 d'autres jeunes, décidés comme moi à rejoindre un kibboutz, nous transporta jusqu'à Haïfa. Je fis ma vie en Israël, quittant le kibboutz au bout de 8 ans pour passer à Tel Aviv, première ville hébraïque. Entre-temps, ma mère décéda dans des circonstances tragiques en 1960 suite à une dépression nerveuse due, paraît-il, aux mauvais souvenirs de la guerre. Et il y eut mon premier mariage en 1967, 3 enfants que j'aime beaucoup, un divorce, 10 ans de célibat et un second mariage. Mon père et mon unique sœur firent leur alia en 1969. Mais en 1980, après un mariage et un divorce, ma sœur se rendit en Allemagne pour être hôtesse dans une foire exposition, ce qui devait être un bref séjour prit une autre tournure et dure jusqu'à aujourd'hui. Le provisoire dure longtemps. Moi qui avais juré de ne jamais mettre le pied en Allemagne, je changeais d'avis en tremblant en 1986 pour rendre visite à ma sœur à Düsseldorf en compagnie de mon fils Elad arrivé à sa bar mitzvah. Je n'étais jamais allée à Auschwitz. Le temps a passé. En 2013, mon épouse Jacqueline, née en Bulgarie, et moi-même prirent la décision d'aller en Pologne, pays de mes racines et pays du crime. Tout autour de nous, les gens parlaient du voyage en Pologne pour y voir les camps de la mort, pèlerinage qui était devenu commun pour les lycéens israéliens de seconde menés par leurs professeurs afin d'apprendre et comprendre le passé. Déjà à la fin des années 1980, Jacqueline avait effectué cette marche des vivants avec ses élèves du lycée israélien de Paris. Réflexion faite, je voulais voir où mes grands-parents habitaient à Varsovie avant le ghetto et où les membres de ma famille vivant en France furent déportés et anéantis à Auschwitz. Et je suis allée à Auschwitz. Nous avons fait le trajet de Varsovie à Cracovie, puis emprunté un minibus. C'était une belle journée de juin, ensoleillée. Et au bord de la route, le paysage était champêtre, fleuri. Nous arrivons sur l'esplanade où les gens font la queue pour entrer. Nous rejoignons un groupe avec un guide polonais francophone, très amical et ouvert. Nous franchissons le portail de fer avec sa devise mondialement connue « Arbeit macht frei ». Voilà les bâtiments de briques de l'ancienne caserne avec leur numérotage, les sentiers pavés, le musée et ses montagnes de lunettes, de cheveux, de vieux vêtements, de chaussures, de vieilles valises éculées. Les photographies des baraquements, des lits de bois à étages où sont couchés de pauvres hères en haillons, de l'appel du matin dans le froid et la neige, du travail forcé, des charrettes convoyant les morts amassés à la hâte, et j'en passe. Nous faisons aussi un crochet passant par les deux fours crématoires qui ont subsisté partiellement. C'est là que des membres de ma famille, transportés par des trains venus de France, trouvèrent la mort. Et l'angoisse me prend. Mais je ne verse pas de larmes, invraisemblable. Mais aujourd'hui, au dehors, il fait trop beau. 70 ans ont passé. La première fois où j'ai pleuré à cause de la Shoah était en 1979, quand avec mes beaux-parents et deux de mes enfants, nous avons visité en Alsace le camp de Struthof-Natzweiler. Nous sommes entrés au musée du camp. J'ai vu la photo d'une résistante juive assassinée. Et soudain, j'ai fondu en larmes à la stupeur de mes enfants qui ne comprenaient pas. Quelque chose avait surgi du passé, indescriptible et indicible. Depuis, je pleure toujours le jour du souvenir de la Shoah ou lors d'un film sur le sujet. Auschwitz est en moi, au plus profond, une douleur que je ne saurais situer. Avant cela, je n'en étais pas conscient. Je suis allée à Auschwitz. Vous voyez ?
Als der Rebbe steht auf den Tisch, die da winkt zum Gaber ab Schätzl. Heum dich sieden, lass ich auf ihn auf, wie geliefen dich hinter ein Schnetzl. A jeder hab von Reben schreien, als ich hube Schabbat. Der noch verzieht mit dem Reben sniegen, in mir singt mit größes Lave. Wer deiket jetzt, wer sollt denn jetzt, a rup die Meurisch heure, der Rebbe soll leben, er wird schon geben, vor wem bin ob mir Meure. Ich sieh dem Lach singen, ich sieh dem Lach tanzen, man lass sich herein in a Kränzl, zerriere sich zu wisslach, klapp mir die Fieslach, ura wasch nicht tänzl. Die Peine ma babelte, ba peite, ba streimte, schichalachin, säckalachin, lachin, singen, setze, singen, setze, feierte, zu springen, mit die Hände lach patschen. Ai, 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 ai. Vertragt sich dort rab Schleimerle, wie pfeift im Stieb der Dalles, zures Hotter ohne Schier, Ekonisch kein Schales. In hohem Hotter, nein, Töchter, keinen Hore geruten alle. Noch weil es ist nicht, du kein Naden, ist kein eine, noch nicht kein Kale. Oi, weiß mir, jetzt weiß, was du's meint, jetzt versteht, was ich mein. Na, Töchter, weiß mir, nein, Töchter, nein, Meiden weiß mir. Sie essen doch mal auf mit dem Fleisch und mit den Beinen, weiß mir. Rief Zachub, ein altes Scherer Ludwig. Rapsleime, was denkt ihr, Rapsleime? Es ist doch Sabbes. In Sabbes tun wir nicht sein teurig. Bei uns steht geschrieben, als Sabbes darf man ruhen. Ich bin da so ein Freilich. Nehmt das Mektabik, nehmt das Mektabik. Wer deiget jetzt, wer soll denn jetzt? A rup die Meurisch heure. Der Rebbe soll leben, er wird schon geben. Vor wem hin ob mir Meure? Chassidim lo singen, Chassidim lo tanzen, lo sich herein in a Kränzl, zerriss lech zerbisslech, klapp mit die Fisslech, gua vajnit penzl. I peinim a babelde, ba peite, ba streimde, schichelach in säckelach in laschen, singe ze zu singen, ze feierte zu springen, mit die Händelach paschen. Ay, 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 ay. Ay 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 ay.
Et c'est avec cette chanson de Yaakov Shapiro que se termine cette émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle qu'elle est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. En ce qui concerne la suite du programme sur les antennes de Radio Judaïka, place aux informations de Jérusalem et de Tel Aviv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom, un guide Shabbos et à vendredi prochain.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away blues from the refugee
oh,
camp.
Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you. My lover, when the wind blows, I can't.